Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos déplacements estivaux, ce qui tombe bien pour le numéro 51. En effet, nous allons aborder les films de requins qui sont sortis cet été. Deux films de requins, Sharkbait ou Sharkbait selon sa traduction française, et L'année du requin. Donc nous avons fait une petite infidélité à notre boîte à requins. Mais il faut bien avouer qu'au milieu de la pléthore de films de Squad, qui est sorti cette année, j'en ai vu déjà un bon paquet. Ces deux films représentent pour l'instant le meilleur de ce qui est sorti, mais un meilleur qui n'est pas sans poser problème. On va pas se la cacher, la QV 2022 des films de requins est, sur la bonne demi-douzaine que j'ai déjà pu voir, plutôt moyenne à médiocre, voire très médiocre. Mais il ne faut pas perdre espoir parce que les annonces de films de requins ne cessent de se multiplier. Et comme je l'ai dit à l'épisode précédent, on a une dizaine de films qui sont annoncés pour cette année, peut-être même encore plus. Et comme en plus dans l'eau, on en a un français qui sort au cinéma, c'était quand même un petit peu l'occasion de les mettre en avant. Alors, je vous rappelle quand même le principe de l'émission. Nous avons donc choisi deux films de requins que nous allons analyser avec une pertinence squalographique, c'est-à-dire cinématographique et squalesque, pour en extraire l'originalité, l'histoire, les personnages, l'ambiance, la réalisation, la qualité des requins, leur attribuer de 0 à 3 points, selon qu'ils soient acquis, en cours d'acquisition, insuffisamment acquis ou non acquis, et rajouter 2 points d'appréciation personnelle pour arriver à une note sur 20, qui permet de reclasser le film dans une des 5 catégories suivantes: au-dessus de 16, un film incontournable, au-dessus de 12, on a un bon film, au-dessus de 8, on a un film routinier, au-dessus de 4, on a un film nul, et en dessous de 4, on est dans un film à fuir. Le tout nous donnant un classement d'une rigueur intellectuelle sans pareil, que vous pourrez retrouver, je mettrai les liens en description du podcast, sur Letterboxd XD par Fabien, sur Sens Critique par Quentin. J'en profite aussi pour revenir sur le petit concours que j'ai lancé dans le précédent numéro, le numéro hors-série récapitulatif des 100 premiers films que nous avons traités. J'ai encore pas mal de réponses qui m'arrivent toujours régulièrement sur la boîte mail, sharkparadepodcast@gmail.com, et donc je ne ferai pas le dépouillement et le tirage dans cette émission, mais dans la prochaine, qui aura lieu au mois d'octobre. Je vous rappelle, 3 extraits audio à identifier que vous avez retrouvés dans l'émission précédente, pour gagner donc les posters magnifiques qui ont été réalisés par W6 pour illustrer l'émission. Mais donc, revenons aux sorties de cette année avec 2 films différents. Tout d'abord donc Sharkbait de James Nunn, qui est sorti en VOD au début du mois de juillet, et au début du mois d'août, une production française des frères Boukerma, L'année du requin, avec Marina Foïs, Jean-Pascal Zadi et Cadmerad, qui est arrivé donc dans les cinémas. Alors, prêt à se jeter à l'eau ?
Heureusement qu'on part demain.
C'est notre dernière chance de faire des trucs débiles, vous le savez.
Hey, jet ski.
Tu peux y aller.
Parfois, il y a des fois dans le business du requin, on se contente de ce qu'on a. Et quand on a un produit un peu mieux achalandé que la moyenne, même si ça réinvente pas l'eau salée, on est plutôt Content serait peut-être un bien grand mot, à tout le moins raisonnablement satisfait de voir un spectacle où on n'a pas envie de se tirer des balles au bout de 2 minutes. Parce qu'après l'affligeance de requins sortie en début de cette année, et diverses productions genre Bouchard, Charcula, Maniteur, qui ont tous tendance à pousser l'amateur de requins vers les anxiolytiques, ce Shark Bay donc a au moins le bon goût d'essayer de respecter à peu près les attentes du film pour amateurs de grosses bébêtes. Et s'avère en l'état, si je mets de côté le compliqué l'année du requin dont nous parlerons tout à l'heure, et The Reef Stoke que je n'ai toujours pas vu, bah le meilleur film de requin qui est sorti cette année. Alors on va pas déboucher le champagne pour autant, hein, ni même la clairette, ce Sharkbait, étonnamment rebaptisé chez nous Shark Bay par les distributeurs français, qui ont bien compris que les amateurs de requins ont généralement 40 mots de vocabulaire et ont arrêté les études d'anglais au niveau CM1. Bon, donc on a déjà échappé à Very Bad Shark ou Shark Academy, c'est déjà ça. Mais donc ce Shark Bay navigue dans des eaux particulièrement convenu, certes, mais bénéficie d'un réalisateur compétent qui arrive à arracher un script indigent quelques moments de tension et de bravoure, ce qui est déjà beaucoup. Nous sommes donc au Mexique avec un petit groupe d'étudiants américains venus fêter Spring Break. Et l'alcool et l'absence de QI aidant, ils vont se décider à voler 2 jet skis pour aller faire la fête au petit matin, une dernière virée avant de prendre l'avion, sans prévenir personne, bien entendu.
Loser!
Je regardais pour ta douche!
Ah, c'est qui le loser?
C'est qui le loser?
Hey! Jet ski? Hey, les meufs! Regardez ce qu'on a trouvé! Allez, ramenez votre cul! Hé, je suis le roi du monde!
Waouh!
T'as qu'à le péter!
Je crois que c'est vraiment une mauvaise idée, les gars!
Quoi? On va juste emprunter 2 jet skis!
Ça reste du vol! Oh, qu'est-ce que tu peux être prude, c'est dingue!
Spring Break!
C'est notre dernière chance de faire des trucs débiles, vous le savez!
Ben moi, je vous suis pas là-dessus, désolée!
Oh là là, c'est vraiment la petite fille du Kansas! Pendant un moment, j'ai vraiment cru que tu savais un peu t'amuser. Et c'est dingue, quand même.
Hé, Nat! Ça fera un truc marrant à raconter à tes enfants, avant l'église.
T'as vu ça?
Mais beurrés comme des petits loups, ils vont réussir à se rentrer dedans à pleine vitesse et se retrouver coincés en pleine mer, blessés et choqués, sur l'unique jet ski encore capable de flotter après le crash. Alors qu'ils dérivent doucement vers la pleine mer et que personne n'est au courant de leur escapade, un requin pointe le bout de l'aileron et commence alors tourner autour. Alors on le voit tout de suite, le film part avec 2 handicaps de base. Le premier, c'est un scénario qui commence à sentir sérieusement le réchauffer, avec ses naufragés perdus en pleine mer et terrorisés par un squale qui leur tourne autour. Bah, depuis Open Water, The Reef, ce genre de pitch ultra minimaliste a détrôné le script des Dents de la Mer en tant que modèle d'écriture, et ça doit être le 10e film sorti ces 5 dernières années qui reprend ce concept, qui ne repose dès lors plus que sur les capacités du cinéaste à faire monter la sauce et à faire tenir la tension avec pas grand chose, si ce n'est une poignée de personnages perdus en mer. Ce qui, avouons-le, permet plutôt des tournages économiques. Alors, le script est fait par un certain Nick Saltrice, qui est essentiellement un scénariste de soap opéra et d'épisodes de séries télé britanniques, pas les plus connus, hein, des trucs pour la ménagère de l'après-midi, mais qui semble déjà avoir commencé à trouver un créneau sur le requin, puisqu'il est en train de travailler sur The Last Breath, qui est en pré-production et qui nous racontera les aventures de plongeurs coincés dans un navire de la Seconde Guerre mondiale avec un requin qui tourne autour. On le voit, les ragoûts réchauffés sont toujours les meilleurs. En tout cas, donc un script qui est pas particulièrement original, avec des rebondissements aussi qui sont bien prévisibles à l'avance, ou en tout cas si on a déjà vu 2 ou 3 films de requins de ce type, on ne va pas être particulièrement dépaysé. L'autre point noir du film, c'est ces personnages cons comme des balais sans manches et qui freinent toutes les mauvaises décisions, et qui multiplient les réactions outrancières et hystériques qui font que très très rapidement on va être du côté du requin, et on attend qu'une chose, c'est qu'il les bouffe. On a envie de détester dès la première minute du métrage ces étudiants teubés bourrins américains jusqu'à la caricature. Heureusement, James Nunn, le réalisateur, qui est un habitué du DTV à budget serré, n'est lui pas trop manchot. Alors, je vais pas dire qu'il va mettre la réalisation à un niveau spielbergien, mais il a quand même suffisamment de métier et suffisamment de talent, notamment en ayant beaucoup tourné avec son compatriote britannique Scott Adkins, un des meilleurs tataneurs sur le marché de la VOD. Je vous recommande d'ailleurs d'ailleurs l'émission de Discordia de François Coe avec Stéphane Boulet qui lui a été consacrée et qui permet de découvrir non seulement un acteur extrêmement charismatique et aux capacités martiales étonnantes, mais aussi un passionné qui sait offrir des vrais films bourrins de VOD qui ne se moquent pas du client et qui procurent vraiment ce qu'on veut. Et c'est même à tel point qu'en début d'année, James Nunn et Scott Adkins nous ont fourni un film qui est dans mon top 5 personnel des films sortis cette année, qui est One Shot, un film d'action sorti en début d'année, qui se passe dans une prison secrète prise d'assaut par des terroristes, et où, en un seul plan séquence, donc multipliant les formes de combat, le suspense, James Nunn nous offre probablement l'un des films les mieux réalisés de l'année. En tout cas, il est dans mon top 5 personnel de cette année. Et si Shark Bay est pas à la hauteur de son film d'action du début d'année, Nunn a suffisamment de talent pour sauver les meubles malgré un budget qu'on sent véritablement misérable et nous offrir des plans qui sont très très dynamiques. Ce n'est peut-être pas totalement un hasard s'il se frotte au film de requin, puisqu'il a été directeur de seconde équipe sur 47 Meters Down et 47 Meters Down Uncaged, dont justement les scènes d'action sous-marine étaient le gros point fort. Si son Shark Bay n'atteint pas la qualité de ces deux films, c'est moins de la faute du cinéaste que d'un scénario vraiment très faible et de moyens qu'on sent très très compliqués, notamment d'un point de vue des effets spéciaux. Le requin en image de synthèse, qu'on ne voit pas beaucoup, eh bien, sa qualité, elle oscille entre pas mal par moment, avec des plans assez réussis, et d'autres où l'intégration fait un peu pitié pour 2022. Le film a été tourné pendant le Covid à Malte, dans des grands bassins qui servent assez régulièrement à toutes les productions maritimes, et c'est une production qui est prévue pour la chaîne américaine Tubi. Alors je vous ai beaucoup parlé de la chaîne Sci-Fi, qui a produit presque les trois quarts des films de requins que nous étudions des années 2000 à 2020. Eh bien, depuis quelques années, il y a un nouveau joueur dans le game. Tubi, une chaîne de streaming gratuite adossée au catalogue de la Fox, et fonctionnant sur la publicité, et qui clairement se positionne sur le marché du film de série B, et qui s'avère visiblement être le nouvel Eldorado des petits producteurs de la place de Los Angeles ou de Londres, comme c'est le cas ici. Là où Sci-Fi met un petit peu en ce moment la pédale douce sur le film de monstres et de créatures, eh bien près de la moitié des films de requins qui sont sortis cette année passent par Tubi. Donc un nouvel acteur dans le jeu à suivre, on en reparlera très certainement. En tout cas, pour revenir sur notre Shark Bay, eh ben j'ai pas tant de choses à dire dessus que ça, parce que si c'est pas un spectacle désagréable, c'est pas non plus le film de requins le plus passionnant de l'année. Les péripéties, elles ont vraiment un goût de déjà-vu, donc on nous rajoute un petit peu de conflit entre les personnages à base de coucheries, à base de petits secrets qui remontent à la surface. Mais ça sent le remplissage pour tenir les 1h30, faute d'un budget conséquent, les attaques de requins étant un peu espacées, de manière aussi à créer l'ambiance, la tension, le métier de James Nunn permettant de camoufler justement cette faiblesse des moyens. Car même si j'ai pas trouvé le budget, je doute qu'il ait dépassé le million de dollars. Tout est à l'avenant, comme la musique de Walter Muir, un compositeur habitué à travailler pour la télévision ou le jeu vidéo, et qui a composé, comme il le dit lui-même, un ensemble de textures et de nappes à base de percussions pour les attaques et de plages au synthé, évoquant à la fois les effets d'eau et le suspense. C'est très efficace, et en même temps, ça n'a aucune personnalité, on va pas se le cacher. C'est du papier peint sonore, mais fait par un artisan qui connaît son métier et qui vous laissera pas de soufflette. Voilà donc un film qui n'est pas renversant, mais qui n'est pas non plus honteux, et qui est, on va dire, dans la moyenne haute de ce qui s'est fait cette année, voire probablement même le meilleur film de requin de 2022, ce qui ne passe pas la barre très très haut. Et ce qui est aussi l'avis unanime de toutes les critiques que j'ai pu voir sur le film. Ouais, ça va, c'est pas mal, mais c'est juste pas mal.
Je sais pas.
Les requins chassent la nuit?
Oui. Tout dépend s'ils ont faim ou non.
Ils s'amusent avec nous, l'enfoiré.
Voilà qui nous amène aux qualités squalographiques de ce Shark Bait, Shark Bay. Eh bien, l'originalité, c'est insuffisamment acquis, hein, c'est vraiment pas le point fort du film, tout a déjà été vu ailleurs, si ce n'est la fin. Alors, il y a une petite surprise, un petit élément un peu inhabituel dans la résolution, que je ne vais pas révéler ici, pas rien d'extraordinaire, hein, vous attendez pas à une révolution, mais une résolution qui évite la grandiloquence et qui se termine presque en demi-teinte. Eh ben, c'est suffisamment original pour au moins lui accorder ce petit point. L'histoire, ben voilà, c'est insuffisamment acquis aussi, hein, des péripéties convenues. C'est le problème spécifique de ce genre de film, hein, on est quand même sur un concept qu'il faut faire tenir pendant 1h40, et la plupart des effets de style de la menace qui tourne, vu le nombre de films qui sont faits sur ce modèle, ben, tous ces effets sont déjà un peu éventés, donc on va avoir de longues périodes où les personnages vont discuter, se remémorer leur passé, et éventuellement ben, se disputer sur qui a couché avec qui, pour essayer de rallonger un petit peu l'intrigue. Des persos eux aussi insuffisamment acquis, hein, il est difficile de s'attacher à eux, c'est pas la faute des comédiens qui font le taf honnêtement, mais c'est surtout qu'on a vraiment la bande d'étudiants stéréotypés, on sait tout de suite qui va être la final girl, on sait tout de suite qui va se faire bouffer quasiment dans quel ordre, et puis en plus comme ce sont des crétins, un film qui ne repose que sur la stupidité de ses personnages, c'est toujours très compliqué à suivre. La réalisation, bah, c'est le point fort, là c'est acquis, Jeffson est bon. Et heureusement qu'il est là pour essayer vraiment de faire tenir un ensemble qui est bien bancal. Et ces effets de mise en scène arrivent quand même à nous tenir intéressés à ce qui se passe, même si c'est pas forcément super original. Mais voilà, les attaques surprises du requin, les retournements, il sait les mettre en scène. De plus, la photo est plutôt belle, le travail sur le sound design aussi plutôt réussi. Voilà, c'est sur ces parties techniques que le film va briller, ce qui lui permet d'avoir une ambiance qui est en cours d'acquisition, parce que on a quand même du suspense. Bon, il y a quand même quelques coups de mou, c'est peut-être ce qui va poser problème. Le film est assez ramassé, mais bon, on sent bien qu'au milieu du film, voilà, il faut faire tenir un petit peu l'ensemble et la sauce. Donc on rajoute, comme je l'ai dit, un petit peu ces rivalités entre personnages, mais qui ne mènent pas bien loin. Le requin, lui, ben, je vais mettre insuffisamment acquis, parce qu'on est quand même sur un film de 2022, et le requin, ben, c'est quand même un requin en image de synthèse, pas très très bien incrusté. Il a ses moments, notamment parce que c'est pas un très gros requin, donc quand il attaque ses victimes, il y va en plusieurs fois, ce qui permet d'avoir quelques effets sanglants, mais ça reste encore assez modeste. Et puis, on est en 2022, l'intégration du requin dans l'eau, même dans une production à budget modeste, hein, c'est pas un micro-budget, hein, ça pourrait être quand même franchement mieux fait que ça. Le résultat est à 9, auquel je rajouterai un point, parce que j'ai pas passé un mauvais moment, ce qui nous le met à 10, ce qui est exactement ce film, hein, qui est quand même pour l'instant, je vous le rappelle, le meilleur de l'année, c'est-à-dire un film routinier à l'extrême, qui atteint quand même la moyenne, mais qui atteint la moyenne aussi par défaut, parce que ce qu'il y a à côté est tellement mauvais que un film qui réussit quand même un minimum à être intéressant et bien tourné, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, on est sur du film de commande pour chaîne de VOD, pour chaîne de streaming, plus précisément, et je crains que ce genre de film, quand je vois le nombre impressionnant de productions de requins qui s'annoncent avec un concept sensiblement équivalent, hein, des gens perdus quelque part et traqués par un requin, nous on n'est pas prêts de finir d'en bouffer, et heureusement pour les requins, eux non plus n'ont pas fini de bouffer des nageurs, un genre d'écosystème finalement. Donc Shark Bay, pas déplaisant, pas extraordinaire, mais soyons honnêtes, le film que nous attendions vraiment cette année, c'était le premier film français de requin. L'année du requin, donc, de Ludovic et Zoran Boukerma. Est-ce que l'attente a été à la hauteur? Eh ben, ça va être compliqué.
Faut que la France à la...
Bonjour Bernard.
Et bonjour Bernard.
38 degrés ce matin à la pointe. Profitons de l'été tant qu'il est encore là pour aller poser nos culs sur la plage.
Au Ruben, à midi, c'est Faritas.
Génial!
Vous êtes
con. Oh, attends, à ton âge, avec la canicule, là, faut s'hydrater toutes les heures.
Tes collègues, c'est des cons.
Vous sentez pas? Je suis pas un expert, mais pour moi, ça sent la merde. Vous savez ce que je pense, les Parisiens.
Ils puent, les Parisiens?
Allez, grouille-toi, il y a des frites à midi.
Quatre mètres.
Peut-être 5.
fermer les plages, Ruben.
Je te laisse une semaine.
Ils ont personne d'autre à la brigade ?
Ces baignades interdites, là !
Oh, papy, t'es bouché ou quoi ?
J'ai un requin à attraper.
La petite frange, c'est là qui pense. C'est là qui pense.
Si on tue une espèce protégée, on va encore dire que l'écologie, c'est l'apanage des vers.
Depuis quand t'es écolo, toi, d'abord ? Ça fait 25 ans que tu roules le diesel.
T'es où, chacal ? Il est là, je sors. Emmenez-moi, nom de Dieu ! Ah, merci, l'ingénie, hein !
Bon, 1,6 sur Allociné, 140 000 entrées en salle.
Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
On va pas se le cacher, c'est une sacrée déception. C'est raté, et même si j'ai beaucoup de sympathie pour le projet et les frangins Boukerma, il y a un moment, faut être réaliste. Malgré leur sincérité évidente, ils se sont plantés dans les grandes largeurs. Pas aidés non plus par la boîte de production The Jokers, qui l'a clairement vendu comme une grosse comédie franchouillarde pas finaude. Ce que ça n'est pas.
Mais qu'est-ce que c'est alors, l'année du requin ?
Difficile à définir, d'autant que le film semble courir plusieurs lièvres à la fois sans jamais en attraper aucun. Comédie, drame psychologique, film d'attaque animale, à force de ne jamais choisir clairement une direction pour leur projet, eh ben on se retrouve rapidement avec quelque chose d'inconséquent et qui tourne à vide. Bienvenue à La Pointe, petite station balnéaire de Nouvelle-Aquitaine où des baigneurs disparaissent mystérieusement. Pour Maja, gendarme à quelques jours de la retraite, cela pourrait être l'œuvre d'un requin, chassé sur nos côtes par le réchauffement climatique. Idée qui devient vite une obsession, d'autant que c'est pour elle l'occasion de faire enfin quelque chose d'une carrière bien trop tranquille. Mais la capture de l'animal qui devait être un baroud d'honneur se transforme assez vite en drame, dont elle est tenue pour responsable. Dans une communauté de plus en plus hostile, Maja, accompagnée de quelques collègues qui la soutiennent encore, se lance dans une traque au squale qui vire à l'obsession. Alors, comme ce film est encore en salle, pour l'illustrer, je n'ai que la bande-annonce. Donc je vais utiliser un reportage de Combini, qui est un petit making-of de 8 minutes, et dont je vous mettrai les références, évidemment, en accompagnement de ce podcast, pour illustrer un peu le projet, et ce qui me permettra de revenir sur les points qui me paraissent un peu problématiques avec ce film. Parce que, je vais pas le cacher, c'est assez compliqué de traiter ce film. C'est plutôt une déception, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir plein de bonnes intentions, plein de choses que je comprends, et qui font que malgré ses défauts, le film peut être attachant. Déjà, on voit on est en terrain inconnu, indiscutablement, on est même en territoire beaucoup trop connu, puisque la pré-production du film insistait il y a un an sur le fait qu'il ne s'agissait pas de faire un remake ou une parodie des Dents de la Mer, mais bien de construire un film original, avec des requins dans un cadre français. Et au final, on se retrouve avec un film qui reprend la ligne narrative du film de Spielberg, qui le décalque presque dans toute sa structure, et jamais au bénéfice de l'année du requin, tant les scènes n'arrivent jamais à atteindre la perfection cinématographique de l'original. Témoin à la scène de surveillance de la baignade, où on attend que quelqu'un soit attaqué par le requin, et qui reprend toute la construction du célèbre moment où Brody observe la plage avec le travelling compensé, mais sans jamais réussir à arriver à porter quelque chose de neuf. En fait, malgré l'originalité de son cadre et de sa volonté d'inscrire le film dans une réalité non seulement française mais régionale, avec trogne typique et accent du sud-ouest en poutre apparente, eh ben il faut bien voir que tout ça fait terriblement factice, sans jamais arriver à créer un sentiment d'être dans autre chose qu'un mix un peu bâtard entre un camping-paradis et le surréalisme de Petit Quinquin. Et c'est là qu'à force d'avoir le cul entre deux ou trois chaises, m'en tombe par terre. Le cinéma des frères Boukerma atteint ses limites en changeant d'échelle. Ça marchait pour Teddy, leur précédent film de loup-garou, parce qu'il restait à une échelle relativement réduite, donc ils pouvaient se permettre de faire un film d'ampleur réduite. Là, ils veulent se donner un cadre véritablement plus large, mais le problème, c'est que, ils essaient toujours un petit peu de revenir à quelques figures, telles que le gros plan légèrement déformant sur les visages, les plans larges d'ensemble avec léger travelling pour découvrir un élément en fin de plan. C'est bien, c'est un style, mais ça marche pas pour tout. Et là, leur gros point faible, c'est l'action. Ils savent pas filmer l'action. Toute la dernière partie du film, lorsque les gendarmes se lancent à la poursuite du requin, est illisible. Illisible faute de sens du rythme, de géographie de l'action. Ils savent faire des plans posés, lents, composés, mais proposer des séquences d'action, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'ils continuent à travailler, car on sent clairement l'envie, les bonnes références, et il faut sacrément du courage pour oser proposer un film de requin en France, vu la réputation de notre pays, la Sharksploitation, mais il faut se donner les moyens d'aller jusqu'au bout dans son ambition filmique. Pour l'amateur de requin, c'est d'autant plus rageant. J'ai peur aussi qu'il se soit un peu auto-censuré, dans cette crainte très française que si on ne donne pas un sens social ou psychologique à un film de genre pour séduire les commissions et les financiers, bah ça marchera pas, parce que le genre c'est sale, et donc il faut l'habiller de ripos respectable. D'où cette impression de jamais savoir sur quel pied danser dans ce film. Cela se retrouve dans donc cette construction bancale, où on a l'impression d'avoir des scènes manquantes pour justifier la trajectoire de certains personnages, notamment ceux de Christiane Gauthier et surtout Jean-Pascal Zadi, qui est littéralement sacrifié au déroulement du récit, et où on se demande pourquoi d'un seul coup le personnage semble devenir lui aussi obsédé par le requin. C'est d'autant plus dommage que le cast principal assure son rôle, qu'Admerad est très bon en mari inquiet pour sa femme qui s'aventure sur mer, Jean-Pascal Zadi est drôle, Christine Gauthier soutient un petit peu l'ensemble, et surtout, on a une Marina Foïs, toute mutique, droite comme un i, dans ses convictions et dans son sens du devoir, contrepoint de son personnage dans Adbestas de Sorogoyen, qui lui donne un rôle qui lui permet véritablement d'exposer la richesse de sa palette de jeu. Et puis, à côté de ça, il y a cette volonté d'avoir des comédiens locaux, qui ne sont pas des professionnels, pour faire ce qu'on appelle parfois un peu des accidents heureux, c'est-à-dire capter une sorte de vérité, sauf que là, ça marche pas du tout.
C'est un peu la continuité de T10 qu'on fait pour l'instant, c'est-à-dire qu'on mélange toujours les acteurs pro, acteurs non pro.
Ouais, c'est galère, ouais, parce qu'ils sont nuls.
Mais faut avouer, t'es pas un acteur professionnel.
Non,
et ça se voit quand tu joues. Tu vois, et tâche au moins de paniquer la scène, c'est tout ce que moi je te dis.
D'accord. Et puis surtout, il y a un truc où nous on adore l'idée de vraiment de mélanger des locaux, quoi, en accent vraiment des Landes, etc., avec ces acteurs pros, ça crée un truc qu'on aime bien.
Et là, c'est du business, frérot. Il y a des gens, ils sont là, ils produisent. Non. T'es avec des Césarisés, t'es avec des vrais meufs.
Ça fait un truc où, franchement, c'est hyper bien.
Non, franchement, j'avoue, c'est pas mal, c'est pas mal, quand même.
Cette idée d'utiliser des comédiens non professionnels, ils rendent le film assez faux. Et ce d'autant plus que ce sont tous les personnages à accent qui se retrouvent avec les rôles les plus ridicules. Donc là, on fait un petit contresens par rapport au projet régionaliste que voulaient soutenir les frères Boukerma, qui sont très attachés à tourner chez eux, dans le sud-ouest, ici dans les Landes, et à mettre en avant la culture locale, les accents locaux. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, ça ne marche pas. Autre souci du film, le requin. Ils ont voulu faire construire un requin mécanique, à l'ancienne.
Allez, il a fait de la charpie le requin là.
Une des choses qu'on savait dès le départ, c'est qu'on voudrait fabriquer un requin en vrai, qu'on puisse avoir vraiment un requin sur le plateau, déjà parce que c'est quand même hyper marrant de se dire qu'on va fabriquer une créature de 4 mètres pour un film.
Le requin, on l'a pas encore vu, mais il paraît, tu vas dans les sujets qui stressent direct.
C'est Pascal Molina qui le fait, on reçoit régulièrement des updates de la fabrication, on a vu tous les plans.
Mâchoire, tout le module mâchoire, voilà, là t'as la grande ouverture, tu vois, museau en l'air, mâchoire ouverte.
Oui, alors Pascal a essayé de nous expliquer comment ça fonctionnait, on a fait semblant de comprendre, mais je crois qu'on a rien compris, ça. Mais ça a l'air assez cool.
Je me disais, ouais, tranquille, ça va être cool, et là, je réfléchis, là. Il va falloir que j'aille dans l'eau, que je me batte avec le requin, ça va être un peu relou, je crois.
Et puis en plus, il y a toujours un truc qui se passe un peu mieux avec les acteurs quand ils ont quelque chose avec quoi jouer, quand ils ont un truc qui... Quand ils voient le requin, ça, la menace, elle est immédiate, elle est là.
Ça va être un peu relou, je crois.
Même pour toute l'équipe, c'est assez galvanisant de se dire que là, dans une semaine et demie, il y a un requin qui arrive. Je pense que tout le monde sur le plateau se demande à quoi il va ressembler. Et les effets numériques, c'est un truc... Bon. Devoir juste imaginer, c'est un peu moins marrant, quoi.
Ouais.
Soit, c'est une bonne idée sur le principe. Et effectivement, quand on le voit aux préparations, le requin est plutôt joli. Mais le problème, c'est que, à l'image, on le montre très peu, comme dans Les Dents de la Mer, et surtout les scènes où on les voit interagir avec le casting sont assez ratées, avec des scènes où il attaque une cage, et où ça fait fake au dernier degré. Ce qui finalement illustre parfaitement ce qu'est le film. Un agrégat de bonnes intentions, mais qui se plante les unes après les autres, parce qu'on n'a pas voulu faire de choix entre l'originalité à tout prix, la personnalité propre des réalisateurs, et la volonté finalement de faire révérence au film de Spielberg, jusqu'à se retrouver écrasé par le modèle. Pourtant, le résultat est un film que l'on a envie d'aimer. Le résultat est un film qui a une personnalité, quoi qu'on en dise. Une personnalité qui n'a pas été bien vue par les publics. Quand j'ai été le voir en salle, on était une demi-douzaine dans le cinéma, et il y a deux personnes qui sont parties avant la fin. Donc voilà, c'est un film qui est clivant, c'est un film qui a toutes les bonnes intentions du monde, mais qui n'arrive pas à trouver son ton, qui n'arrive pas à trouver son équilibre.
et qui au final laisse assez interloqué et ben, qui va se retrouver avec plutôt des mauvaises critiques et des retours spectateurs qui eux aussi sont d'autant plus mauvais qu'on leur a vendu une comédie, qu'on leur a vendu un film avec Kadmerad et Marina Foïs et Jean-Pascal Zadi, et qui se retrouvent devant un film qui traîne son spleen et ses réflexions absurdes sans même réussir à donner l'action qui permettrait au moins de faire rebondir l'ensemble. Donc oui, je suis un petit peu sévère avec ce film, et c'est ainsi, comme je l'ai dit, qu'on se retrouve devant un film qu'on aimerait aimer, qui a plein de choses que l'on peut apprécier, mais qui donne une impression de pétard mouillé, parce que le film de requin à la française, il attend encore son chef-d'œuvre. Au moins, il y en a déjà un. Je continuerai quand même à suivre avec intérêt la carrière des frères Boukerma et à aller voir leur prochain film. Parce que ce sont quand même, quoi qu'on en dise, des cinéastes qui ont une véritable personnalité, qui essaient de proposer quelque chose dans le paysage du cinéma français. Parfois, on n'y arrive pas toujours, mais au moins, il faut essayer. Et Teddy, leur premier film, était plutôt pas mal. Cette année du requin est plus une déception. Mais bon, quoi qu'il arrive, ce genre de projet, ça se soutient.
Non mais il faut écrire des films d'horreur, il faut écrire des films de monstres et tout, c'est hyper chouette. Je trouve que c'est hyper bien qu'on puisse s'aventurer un peu sur ce terrain-là en France. Assez excitant, donc au contraire, il faut y aller.
C'est qu'on a l'impression qu'il y a une jeune génération de cinéastes qui est peut-être plus ouverte sur le genre, et on trouve ça au contraire super cool.
Alors, les qualités scolographiques, ça va être embêtant. Alors l'originalité, c'est en cours d'acquisition. Pour le fait déjà de faire un film de requin français, pour essayer de l'inscrire dans un cadre véritablement régional, pour certaines trouvailles ponctuelles, pour les personnages qui sont quand même assez lunaires, même si en fait les différentes péripéties reprennent les grandes lignes du film de Spielberg, ce qui fait que l'histoire elle est insuffisamment acquise. C'est-à-dire que s'il y a une originalité dans la volonté de faire le projet, c'est la construction qui est peu crédible, et finalement à force d'être calqué sur les différentes péripéties du film de Spielberg, avec Marina Foïs en wannabe chef Brody, Kadmerad qui joue le rôle de d'Hélène Brody, en fait, l'époux qui reste au foyer, les pieds sur terre, alors que sa femme est en train de partir dans une obsession et torturée par son poids de responsabilité, et un cadre qui est vraiment trop exagéré dans la réaction des personnages secondaires, que ce soit le public de la station balnéaire qui ne veut pas prendre de précautions, puis ensuite la foule vengeresse qui veut un bouc émissaire et un coupable. Les personnages, eux, sont c'est terrible, c'est insuffisamment acquis, alors je dirais pas les comédiens qui font leur travail et qui déroulent leur partition et leur savoir-faire, mais comme finalement leurs personnages sont tellement caricaturaux et leurs réactions pas toujours très très net et très très clair, c'est pas très très bon. Et puis, voilà cette idée d'avoir des comédiens non professionnels, c'est pas très très heureux finalement, parce qu'on va pas se le cacher, être comédien c'est un métier. Et donc si on utilise des non professionnels, on peut les utiliser dans une veine plus documentaire, où on les utilise aussi pour capter leur vérité, pas pour leur faire jouer des personnages grotesques qui annonnent leur texte. La réalisation est en cours d'acquisition. Alors, les Boukerma ont un style très affirmé, peut-être trop affirmé, parce que dès qu'ils sortent un petit peu de leur zone de confort, c'est-à-dire la peinture de caractère avec des effets de style qui amplifient à la fois le côté étouffant de leur mise en scène, le côté grotesque, on arrive vite aux limites. Les scènes de plage sont sans grande personnalité, et comme je l'ai dit, les scènes d'action, elles, sont complètement ratées. Là, il y a à travailler, je pense, véritablement cet aspect-là, parce que les frères Boukerma ont envie de faire du cinéma de genre, mais le cinéma de genre, ça ne se fait pas comme le cinéma d'auteur. Il y a aussi une grammaire à respecter. L'ambiance, elle est insuffisamment acquise. Comme on navigue entre plusieurs eaux, on ne sait pas vraiment où on va. Donc, comme je l'ai dit, on est dans une atmosphère un peu cotonneuse, on ne sait pas véritablement sur quel pied danser. C'est illustré par la musique d'Amaury Chabotty, qui n'est pas déplaisante, mais qui n'est pas très originale. Là encore, des nappes et des textures vaguement synthé, orchestrales, avec de grosses réminiscences des Dents de la Mer quand on est dans les scènes avec les requins, des morceaux un petit peu plus légers, au banjo par exemple, quand on est dans les scènes en ville. Mais tout ça, c'est un petit peu la façon dont la plupart des DTV organisent leur musique pour avoir un petit peu des effets atmosphériques quand on est en mer, des effets un peu plus rigolos avec musique rock ou musique un petit peu plus légère quand on est dans des scènes de comédie, et puis quand même beaucoup de reprises de percus et de nappes de synthé pour faire à la John Williams. Donc là encore, ça s'inscrit dans quelque chose qui manque singulièrement de personnalité. Qualité des requins, enfin, ben c'est insuffisamment acquis. Alors oui, ils se sont débrouillés pour faire un beau requin mécanique, et ils le filment très mal. Et les quelques scènes où on voit le requin, ben il est vraiment pas à son avantage. Notamment, il y a une scène d'attaque de cage qui a fait rire la salle qui l'a vue où j'étais. Donc, c'est embêtant. C'est très très embêtant, parce qu'en fait, on sent quand même que c'est fait avec de vraies bonnes intentions. Et donc voilà, on est à 8. Je vais rajouter un point, parce que le film, malgré tout, a de la sympathie, et je dois avouer que j'ai bien aimé certains passages. J'ai bien aimé notamment le jeu de certains comédiens, et puis la volonté de l'ancrer dans un paysage bien français, d'un paysage du sud-ouest, et de ne pas nier son identité profonde. Maintenant voilà, c'est quand même un coup d'épée dans l'eau. C'est un échec, on va pas se le cacher, et il faut espérer qu'on puisse malgré tout voir d'autres projets un petit peu du même acabit en France, et que l'échec du film en salle ne douche pas la volonté de faire de vrais films de genre en France. Ce qui est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Donc voilà, au travers de ces deux films, on a un été pas foufou, pas honteux, mais juste un peu décevant. Et il faut espérer qu'on va avoir quand même d'autres films de requins un petit peu plus trapus à se mettre sous la dent dans les mois qui viennent. Et quand je vois ce qui est annoncé, j'en suis pas complètement certain. Enfin bon, allez, on reprend notre bâton de pèlerin et notre boîte à requins pour voir ce que nous ont traité dans les semaines qui viennent. Alors, on reste en 2022 avec Shark Side of the Moon, un The Asylum de Glenn Campbell et Tammy Klein. Je l'ai vu, et c'est pas bien, mais c'est vraiment pas bien. Ça commence bien encore. Et puis, allez. Et on part en 2003 avec Redwater, parfois connu aussi sous le nom des Dents de la Mort, un film de Charles Robert Carner avec Lou Diamond Phillips et Christy Swenson et Coolio. Ouais, on revient au début des années 2000, ça sent les stock shots de requins. En tout cas, quelques recommandations rapidement, une recommandation manga. Je remercie Pierre au passage de me les avoir offerts. Il s'agit de Shark Panic, donc un manga en deux épisodes, en deux bouquins de Tsukasa Saimura, qui est vraiment une adaptation de téléfilms de requins en manga, avec des jeunes qui vont devoir affronter un requin en pleine mer. Donc c'est sur deux livres, c'est assez facile à lire, ça ne révolutionnera pas l'arbre de la BD, mais bon, ça fait quand même bien son petit effet. Et puis j'ai participé pour la préparation de la Nuit Nanarland, qui va se tenir le 1er octobre au Grand Rex, à une émission de Filmo TV qui s'appelle Le Bistrot de l'Horreur, avec Christophe Lemaire et François Cognard, où pendant plus d'une heure et demie, on a discuté nanar, film, pas de film de requin, mais des productions joyeusement bis, Whitefire, Le Justicier, La Reine des Crocodiles, L'Exécuteur partout. Bref, une heure et demie de discussion à bâton rompu très sympathique. Je vous mets toutes les références, évidemment, dans l'accompagnement du podcast. Et donc, voilà pour cette plongée dans l'été 2022, on reprend donc notre rythme normal. On se retrouve au mois d'octobre donc pour aborder deux autres films. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.